Le texte que nous allons commenter se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, versets 26 à 31. En voici la lecture. Après sa conversion, Paul vint à Jérusalem. Il cherchait à entrer dans le groupe des disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta ce qui s'était passé. Sur la route, Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. À Damas, il avait prêché avec assurance, au nom de Jésus. Dès lors, Paul allait et venait dans Jérusalem avec les apôtres, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères l'apprirent. Alors ils l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait et se multipliait avec l'assistance de l'Esprit-Saint. Alors voici un passage des Actes des Apôtres. Donc le chapitre 9, c'est le chapitre où saint Paul se convertit dans sa fameuse vision sur le chemin de Damas. Et nous voyons ici, comment dire, ce qui se passe immédiatement après, donc dans les semaines qui suivirent. Alors le livre des Actes des Apôtres est très très intéressant, d'abord dans son interprétation littérale, dans la mesure où il nous aide à voir ce que l'Église, ce vers quoi l'Église devrait tendre dans sa perfection. Alors, d'abord, commençons par le premier verset, déjà très instructif en lui-même. Après sa conversion, Paul vint à Jérusalem. Eh bien, le signe de la conversion de quelqu'un, il est simple. Vous savez, beaucoup de gens disent « Oh, moi je suis chrétien, je vais à l'église, je crois en Dieu. » Et puis, on se dit « Ben, oui, bon, qu'est-ce qu'être chrétien ?» Mais ici, il y a quelque chose de simple. D'abord, il faut une conversion. On n'en fera pas l'économie, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et même si on a été baptisé petit, eh bien, il faut une démarche personnelle pour en quelque sorte valider son baptême. C'est ce que devrait être la profession de foi, mais qui, là encore malheureusement, est reléguée, disons, à une simple fête de famille. C'est bien en soi, mais c'est pas du tout suffisant. Alors ici, eh bien, regardez. Ce qui authentifie la conversion de quelqu'un, ce qui authentifie le fait que la personne puisse effectivement se dire chrétienne, c'est pas qu'elle soit parfaite ou pas, personne n'est parfait, mais c'est comme Paul, il vint à Jérusalem. À l'époque des Actes des Apôtres, d'ailleurs c'est flagrant si vous regardez, le centre de l'Église c'est Jérusalem, c'est un peu comme notre Rome maintenant, à nous catholiques. Donc c'est Jérusalem. Et puis petit à petit, où se termine la fin des Actes des Apôtres, eh bien au chapitre 28, c'est à Rome. Donc vous voyez ce glissement du judaïsme à l'universalité. Alors, mais là au chapitre 9, c'est à Jérusalem que Paul vient, car à Jérusalem est l'Église, le centre de l'Église. Eh bien, ce qui identifie conversion, c'est que, eh bien, la personne qui se dit convertie doit venir à Jérusalem. Eh bien, elle doit s'intéresser à tout ce qui touche à Dieu et à Jésus-Christ. Donc, ce qui a un rapport avec l'Église, son enseignement, la parole de Dieu, la prière, la tradition, toutes ces choses, normalement, devraient attirer la personne qui se dit convertie. Si une personne se dit convertie ou se dit chrétienne, elle n'est pas intéressée par la messe, par la prière, par la lecture de la parole, par aucune de ces choses, hein, on n'est pas obligé d'être intéressé par tout à la fois, mais par aucune de ces choses qui touchent à Dieu et à son Église, on peut se poser de sérieuses questions. Voyez, ça me fait penser à la messe. C'est vrai, si on lit le récit des disciples d'Emmaüs, que ce qui fait d'abord le chrétien, c'est sa relation personnelle à Jésus-Christ. Je l'ai assez dit dans mes enregistrements. Donc, c'est et sa vie de prière personnelle avec une méditation face à face avec la parole de Dieu. Mais à un moment ou à un autre, eh bien, cette démarche se fait communautaire, comme les disciples d'Emmaüs. Ils reviennent aussi à Jérusalem pour témoigner et se nourrir aussi du témoignage des apôtres. Eh bien, Paul fait la même chose. Donc, à un moment ou à un autre, On ne peut pas être chrétien tout seul, et à un moment ou à un autre, il faut bien, je veux dire, se poser la question. Et vous voyez, moi, la messe, avant que je me convertisse à l'âge de 17 ans, ne m'intéressait pas beaucoup. Mais tout d'un coup, quand on commence à rencontrer le Seigneur, mais la messe a une dimension extraordinaire, écouter la parole de Dieu, et puis, eh bien, on se rend compte que le prêtre, très souvent, dit des choses sensées, il faut espérer. Puis il y a l'Eucharistie, voyez, donc voilà. Notons aussi, parce que toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la parole de Dieu peut s'interpréter toujours, donc la manière littérale, et puis se greffe souvent l'allégorie, et puis certains textes se prêtent à l'interprétation tournée vers la mort et la fin des temps, mais dans tous les textes, il y a toujours cette interprétation littérale et historique, et puis il y a l'interprétation, disons, tropologique ou morale qui est centrée sur notre intérieur. Eh bien ici, vous voyez, il faut croire, vous allez voir dans la suite du texte, que cette interprétation n'est pas du tout tirée par les cheveux, mais ici, nous devons prendre conscience qu'en chacun de nous, du plus éloigné, enfin, je veux dire même chez le plus éloigné de la foi, il y a un saint Paul qui sommeille, qui ne demande qu'à venir à Jérusalem. Et comment on le fait? Bien, vous voyez, quand nous commençons à prier pour quelqu'un qui est très loin de Dieu, nous semons quelque chose en lui. Quand nous pouvons lui témoigner par la parole, et nous semons quelque chose en lui, même s'il ne paraît pas très réceptif dans un premier temps. Quand nous avons le moindre geste de charité fait au nom de Jésus, eh bien, nous semons quelque chose en lui, même si nous ne témoignons pas explicitement. Eh bien, cette semence, c'est ce Paul qui se tourne vers Jérusalem qui a été mis dans le cœur de la personne. Et donc, chez cette personne, il y a comme cette conversion qui veut dire littéralement ce retournement. Il y a quelque chose dans son cœur qui se retourne. À l'image de ce Jean-Baptiste, vous vous souvenez de la visitation, où Marie va visiter sa cousine Élisabeth. Et Élisabeth se dit, dans l'évangile de Saint-Luc, que l'enfant a tressailli dans le sein d'Élisabeth. Donc Jean-Baptiste, au très fond des entrailles de sa mère, eh bien, c'est comme s'il se retourne quand il voit Marie qui transporte Jésus. Eh bien, nous aussi, nous avons ce pouvoir de conversion, de retournement dans le cœur de nos frères, par notre prière, nos paroles, nos actes de charité, même s'ils n'en sont pas conscients. Et c'est important de le savoir parce que le texte va s'éclairer singulièrement à cette lumière. Donc il cherchait à entrer, Paul, dans le groupe des disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Toujours rester d'abord à l'interprétation qui est proche du texte. Eh bien, combien de fois nous pensons que certaines personnes ne sont pas convertissables, qu'elles ne peuvent pas croire en Dieu, qu'ils sont trop loin, Dieu n'est pas pour eux, etc. Donc, qu'est-ce qui arrive? On les juge et voire on les méprise. Ou alors, on pense que il est trop loin de Dieu. Ce n'est pas la peine d'essayer, même de prier pour lui, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Oui, ce raisonnement n'est pas si rare. Eh bien, nous sommes comme les disciples. Ils n'arrivent pas à croire que quelqu'un comme Paul, qui a persécuté les chrétiens, puisse vraiment être un disciple du Christ. Ce manque de foi est terrible parce que cela tue l'amour et l'évangélisation. Ensuite, si on regarde, ce qui fait que les disciples ont du mal à croire, c'est qu'ils n'arrivent pas à croire que l'Esprit Saint les précède. Vous savez, comme Pierre qui va chez Corneille, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, il me semble que c'est au chapitre 10. Donc Pierre va chez Corneille, chez un païen, il est tout surpris, et ceux qui l'accompagnent aussi, ils sont tous surpris, oui c'est le chapitre 10, je vérifiais, il est tout surpris, et ses compagnons aussi, de voir que, eh bien, Corneille, qui est romain, païen, se met à parler dans une langue mystérieuse, que c'est le chant en langue, la glossolalie, qui est très fréquent dans les Actes des Apôtres, et dont Paul parle dans 1 Corinthiens 14 et 1 Corinthiens 12. Eh bien, ils sont tous surpris parce que c'est le signe que l'Esprit Saint soufflait sur eux. Mon Dieu, mais l'Esprit Saint souffle même chez les païens. Eh bien, il nous faut être convaincus que l'Esprit Saint nous précède. Il faut croire que dans l'invisible se passent des choses, c'est-à-dire à commencer par le cœur de nos frères. Parce que si on ne croit pas ça, on croit que tout dépend de nous. Et alors, effectivement, si tout dépend de nous, il y a des personnes qui vont nous sembler bien loin de Dieu et bien inconvertissables. Humainement, c'est impossible de les amener à Dieu. Mais si on pense que c'est dans l'invisible, dans le cœur que se jouent les choses, alors il y a d'abord la prière. Par la prière, nous pouvons ouvrir des chemins qui vont justement permettre à nous ou à d'autres, plus tard, de pouvoir leur parler du Christ. Ça va permettre au Christ de vraiment mûrir pleinement dans leur cœur. Donc il faut être conscient que les choses se passent d'abord dans l'invisible, c'est d'abord dans la prière que se passent les choses. Et si on le croit, alors on peut prier pour n'importe qui et être sûr que cela est efficace. Ne soyons pas ici comme les disciples qui ont du mal à croire que l'Esprit Saint travaille dans le cœur des gens qui sont loin de l'Église et qui nous semblent loin de nos préoccupations qui doivent être centrées sur le Christ. On a l'impression qu'ils ne pourront jamais venir à Jérusalem. Alors le texte nous dit, « Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta ce qui s'était passé. Sur la route, Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. À Damas, il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. » Finalement, nous avons besoin de Barnabé. Notre Église a besoin de Barnabé, de gens qui, justement, ont cette vision centrée sur le ciel. Voyez, trop souvent, notre Église est enfermée, nos paroisses et nos communautés sont enfermées dans l'administratif, dans les petites querelles de clochers, etc. T'es charismatique, t'es pas charismatique, en latin, pas en latin, des choses comme ça. Et puis entre églises chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes aussi, on s'enferme dans nos différences. Et puis on oublie, il nous faut des Barnabé, c'est-à-dire que la première chose, c'est de regarder vers le Seigneur. Nous devons être nourris de la prière. Et qu'est-ce que fait Barnabé ? Barnabé raconte ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu. Eh bien, nous aussi, nous pouvons raconter ce que nous avons entendu par la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est ce que Barnabé fait parce qu'il n'était pas là quand c'est arrivé à Paul sur le chemin de Damas, cette conversion. Il a entendu. Alors, il l'a vu prêcher avec assurance au nom de Jésus à Damas, mais il ne l'a pas vu sur la route. Mais il y a cru. Eh bien, nous aussi, nous devons croire ce que nous entendons dans la parole de Dieu. Et comme Barnabé, nous devons vraiment nous nourrir du témoignage de la parole de Dieu, et alors nous aurons ce regard qui lève les yeux vers le ciel, qui lève les yeux vers l'invisible, et qui donc comprend que les réalités de ce monde ne sont que les conséquences de ce qui se passe dans l'invisible, et que ces conséquences peuvent naturellement changer en fonction de ce qui se passe dans l'invisible, c'est-à-dire en fonction de nos prière. Et si nous avons ça à l'esprit, alors les efforts que nous ferons envers nous-mêmes et envers nos frères, eh bien, même s'ils semblent vains, s'ils semblent inutiles et petits, nous savons qu'ils ont une dimension à la mesure de notre prière, qui les précède, ces efforts, ces actes de charité, les accompagne et les accomplit. C'est très très important d'en être persuadé, parce que de là dépend l'efficacité de notre vie de témoignage et d'amour pour nos frères et nous-mêmes. Cela aussi, nos progrès aussi dépendent de ça, de notre foi en la prière, qui fait que même si nous chutons, même si des fois nous ne sommes pas à la hauteur, même si des fois nos efforts semblent petits, mais par la prière, la sincérité de notre cœur, nous savons que nous sommes sur le chemin qui monte vers le haut, qui va à Jérusalem, justement. Alors, ici, je voudrais aussi insister sur ce texte, les actes des apôtres nous montrent vraiment la différence qu'il y a en profondeur entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je dis en profondeur, oui et non, parce que, évidemment, dans l'Ancien Testament, il y a en gerbe le Nouveau. Mais disons, ici, les disciples sont encore, comment dire, ils ont encore les réflexes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire beaucoup d'efforts, de commandements à respecter. Alors, humainement, Paul et tout ça ne semblent pas pouvoir par ses propres forces ou les disciples par leurs propres forces ne semblent pas pouvoir amener Paul à la conversion. Et puis Barnabé, ici, eh bien, il veut vraiment, c'est celui qui, dans notre Église ou dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, nous devons cultiver ce Barnabé par la lecture de la parole. C'est aussi ce germe en nous qui va nous donner ce réflexe de regarder vers le haut. Eh bien, avec Barnabé, nous devons comprendre une chose. Depuis que le Christ est mort sur la croix, ce n'est plus le règne des commandements d'abord, mais c'est le règne de la grâce. La grâce est première, et le commandement, qui se résume, comme le dit Jean dans sa première lettre, et Jésus dans l'évangile du même nom, eh bien, les commandements de Dieu se résument dans l'amour. Mais ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu. C'est ce que nous dit aussi la première lettre de Saint Jean. Ce qui est premier, c'est la grâce de Dieu pleinement manifestée sur la croix. Voyez, la croix, c'est ce qui a ouvert en grand, ce qui a forcé les portes de la grâce, c'est-à-dire, enfin, je veux dire, ce qui a forcé les portes du monde, qui fait que le monde s'est ouvert de manière définitive à la grâce de Dieu, qui souffle, qui maintenant, rien ne peut l'arrêter, si ce n'est notre liberté et notre refus. Mais avant cette croix, il y avait beaucoup d'obstacles qui pourrissaient notre liberté, qui faisait qu'on ne pouvait jamais choisir les choses correctement, et tout était voilé. C'est un petit peu ce que dit saint Paul aussi dans une de ses épîtres. Hein, l'ancienne alliance, l'ancien Israël, tout était voilé. Avec la croix, tout est net, tout est précis. Eh bien, c'est tout dépend de notre oui. Et la grâce fait le reste. La grâce est donnée en plénitude, comme le dit le prophète Joël dans les derniers temps. Voyez, l'Esprit soufflera. Oui, qu'annoncent aussi les prophètes, Ézéchiel, Jérémie. Oui, comme Jérémie dit lui-même, qu'on n'aura plus besoin d'être instruit, le Seigneur nous instruira lui-même. Ézéchiel part d'un cœur de chair ou d'un cœur de pierre, parce que l'Esprit sera donné en plénitude. C'est ça. Pourquoi? Mais c'est parce que, enfin par Jésus-Christ, enfin, par ce Dieu qui s'est fait homme, Dieu a pu nous aimer parfaitement, tout en nous respectant dans notre liberté, il nous a aimés parfaitement parce qu'il est Dieu, il nous a aimés parfaitement justement à la mesure de respect de notre liberté parce qu'il s'est fait homme. Eh bien depuis, la grâce peut souffler. C'est ce que Barnabé a compris, c'est ce que nous devons comprendre dans nos manières d'agir, et dans nos manières, justement j'allais dire de juger les gens, on n'a pas à les juger justement, notre manière de porter notre regard sur eux. Alors, ici, le texte continue, dès lors, Paul allait et venait dans Jérusalem avec les apôtres, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Donc, voyez, les disciples, eh bien, ils ont écouté leur Barnabé et ils ont laissé l'Esprit souffler. Ils sont passés du schéma de l'ancienne alliance, respecter les commandements, au schéma de la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, la grâce est première, le monde invisible fait irruption dans le monde visible. Dans la mesure, surtout, nous comprenons que c'est le monde invisible qui commande le monde visible. Eh bien, ils acceptent de laisser Paul librement prêcher dans leur église. Alors, bon, ce n'est pas au début ce que je voulais dire, mais il y a aussi des jeunes convertis qui nous embarrassent et tout ça. Eh bien, sachons les accueillir et sachons nous laisser bousculer dans notre routine, dans notre ronron quotidien, par des personnes, par des lectures, surtout par la parole de Dieu, voyez, pour que jamais nous ne soyons prisonniers de la routine et que, comme les apôtres au début du texte, nous oublions de lever les yeux. Et laisser Paul aller et venir, c'est aussi, de la part des disciples, reconnaître enfin que tout se joue dans l'invisible et que, dans n'importe quelle personne, la grâce travaille d'abord grâce à la prière. Peu importe son éloignement par rapport à Dieu, nous devons accepter ça. Nous devons vraiment accepter cette vérité. C'est très important. Personne n'est trop loin pour que Dieu lui saisisse ou lui tende la main. Et ce qui montre que personne n'est trop loin, c'est que nous devons être convaincus que nous avons la puissance que Dieu nous donne. Justement, de retourner les cœurs de nos frères, peu importe leur hostilité à Dieu, leur indifférence, par la prière. Par la prière, nous laissons aller et venir Paul dans Jérusalem. Nous laissons aller et venir la grâce dans le cœur de nos frères, dans les circonstances, dans ce monde, dans nos propres défauts, dans nos propres réticences. C'est une chose dont il faut être convaincu. Donc, Le texte nous dit aussi prêchant avec assurance au nom du Seigneur. D'abord, pour prêcher avec assurance, il faut que ce soit au nom du Seigneur. Je ne prêche pas pour la messe en latin d'abord, pour telle ou telle église, je ne prêche pas pour telle ou telle morale d'abord, je prêche au nom du Seigneur. Le Seigneur doit être le centre de ma vie, donc il est normal que c'est en son nom que je prêche, et avec assurance. Donc, comment prêcher avec assurance si on ne fréquente pas le Seigneur? Et prêcher au nom du Seigneur, c'est pas forcément prêcher explicitement en son nom, mais c'est justement, le nom dans la Bible, c'est la présence. C'est vraiment agir en son nom. Vous voyez? C'est croire que c'est le Seigneur qui est d'abord là, qui précède par son esprit notre action. C'est croire en la puissance d'abord de la prière qui prépare les cœurs. Voilà ce qu'est d'abord prêcher au nom du Seigneur. Parce que souvent on prêche en notre propre nom, si on croit que ce sont nos simples paroles, ou parfois même nos actes qui peuvent amener les gens à Dieu. Non, sans la prière, les cœurs ne sont pas prêts, les chemins n'ont pas été débroussaillés, et Jérusalem est encore bien loin. Alors, on dit que Paul parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux, bon, petite note, faut savoir que dans la communauté juive, bien sûr, il y a diaspora, beaucoup de Juifs, suite à l'exil, sont restés à Babylone, et puis après, avec la venue d'Alexandre, qui a conquis l'Empire babylonien, eh bien, des Juifs ont commencé à vivre en Grèce, etc. C'est d'abord, on parle d'ailleurs de la Septante, la Bible traduite en grec, l'Ancien Testament, donc c'est quelque chose qui était déjà avant Jésus-Christ. Puis ici, on englobe aussi, je suppose, les craignants Dieu. Ce sont des païens, d'origine grecque la plupart, qui, justement, sympathisent avec le judaïsme, mais ils ne sont pas tout à fait acceptés, parce que le judaïsme est plus fermé que la nouvelle Église qui a reçu de son Seigneur l'appel à l'universalité. Mais on lui dit donc qu'il discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères l'apprirent, alors ils l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. Voilà un avertissement contre la naïveté. Ce n'est pas parce qu'on prie pour les gens et que c'est une efficacité, comme je viens de le dire, et que même nos gestes posés de charité dans la prière pour une personne, même si on ne peut pas le faire explicitement au nom du Christ à ses yeux, à cette personne, ou si nous-mêmes nous faisons des efforts, et si dans l'immédiat tout ne se voit pas tout de suite, j'insiste, c'est ce que nous dit le texte et la Bible à longueur de page, cela est quand même quelque chose d'efficace, il faut du temps, parce que Dieu travaille avec la liberté des gens, c'est ça l'amour, donc c'est pas l'amour qu'il sauve, donc c'est avec le temps et la liberté. Respecter que Dieu sauve. Mais il sauve, parce que en chaque personne, il y a ce désir de conversion, de retournement. Il y a ce désir d'éternité, hein. Cette soif de Dieu. Eh bien, ce texte nous dit, même si on laisse venir Paul, etc., prêcher qu'assurance, si par notre prière, nous appuyons cette semence dans le cœur de nos frères, en nos propres cœurs, si par notre prière, par notre amour, nous ouvrons nos portes, eh bien, à tous ces pôles, etc., il n'en reste pas moins qu'il y a des obstacles qui seront toujours là. Et justement, les apôtres le reconnaissent puisqu'ils acceptent de cacher Paul à Tarse, sa ville natale. Donc finalement, c'est un petit peu comme si après s'être rendu compte qu'effectivement, le Seigneur travaille, il faut avoir foi en la puissance du Seigneur, les miracles, ça existe, les guérisons intérieures, physiques, spirituelles, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas parce qu'on commence à se rendre compte, à ouvrir les yeux sur l'invisible, que tout d'un coup tout est merveilleux. Il faut être conscient que cela prend du temps, que le travail dans l'invisible, donc, se fait d'abord dans l'invisible des cœurs, dans l'inconscient des gens, dans l'inconscient de ce monde, comme un levain dans la pâte. D'accord? Voyez? Parce que si on croit tout de suite, ah ben ça y est, donc, ok, comme Barnabé, eh bien, nous avons cette consolation, c'est ce que veut dire le nom de Barnabé, de penser que les choses se font dans l'invisible, que le Seigneur travaille, donc pas de problème, tout va être résolu tout de suite. Eh bien, on va perdre la foi, on va être découragé. Le texte nous rappelle que Paul, eh bien, a été confronté à des Juifs qui, de langue grecque, qui voulaient le tuer. Et les disciples ont eu cette sagesse de dire, eh bien, nous acceptons de reconnaître ce travail dans l'invisible, mais nous savons que il demande aussi beaucoup, beaucoup de patience, ce travail, justement, dans l'invisible. Parce que nous sommes conscients que notre Dieu, c'est ce Dieu crucifié. donc qui sauve par l'amour, et l'amour ne peut pas faire l'économie du respect de la liberté. Donc soyons, persévérants, c'est le mot d'ordre. Persévérants, c'est-à-dire ayons la foi. Comme le dit Jésus en Marc chapitre 9, certains démons ne sont chassés que par la prière. Ayons la foi, ce que cela motive nos actes de charité, nos témoignages, notre intercession, mais que notre persévérance soit à la mesure de notre patience. Et alors se produira ce que dit la fin du texte. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit-Saint. Si nous avons cette persévérance patiente, eh bien, nous rendrons compte que malgré les apparences dans le monde visible, à court terme, eh bien, les choses avancent. Elles avancent en ce monde, elles avancent en notre Église, et elles avancent dans le cœur de nos frères, elles avancent dans nos propres cœurs, au cœur de nos réticences. Et voilà. Si nous avons donc, c'est la clé. La clé, c'est soyons ouverts à l'action du Seigneur et prenons de plus en plus conscience que les choses se passent dans l'invisible, que la grâce du Seigneur travaille, que le miracle est possible. Mais ne soyons pas naïfs. Donc soyons toujours patients, que cette patience accompagne notre foi et donc ça devient de la persévérance. Et alors, nous nous rendrons compte que les choses, où nous serons convaincus que malgré les apparences, les choses avancent. Et alors notre persévérance aboutira, au résultat, à l'exaucement, c'est-à-dire à la pleine réalisation de la grâce de Dieu que nous aurons accompagnée de notre amour, de notre patience et de notre persévérance. Nous sommes appelés donc à coopérer avec l'Esprit-Saint. Comme le dit le texte, l'Église se multiplie avec l'assistance de l'Esprit-Saint. Si nous voulons que notre témoignage, notre vie porte des fruits, si nous voulons que notre Église porte des fruits, il faut qu'elle le fasse avec l'assistance de l'Esprit-Saint. Je dirais même qu'il faut qu'elle le fasse en retrait de l'Esprit-Saint, simplement pour l'accompagner et non pas pour le précéder et pour le phagocyter. Voilà. Donc, j'espère que ce commentaire vous a aidé. Je vous propose maintenant de prier. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, réveille en nous Barnabé. Oui, vraiment, que ce Barnabé grandisse en nous, c'est-à-dire que nous soyons toujours davantage ouverts à la présence de l'invisible, à la présence, à l'action de ta grâce, oui, en la personne du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, donne-nous ce regard. Donne-nous ce regard quand nous posons justement notre regard sur nos frères, que nous ne désespérions pas, mais que nous soyons pleins de foi et d'espérance en l'action de ton Saint-Esprit. Et pour ceci, Seigneur, comme Barnabé, apprends-nous à nous nourrir du témoignage de ce que nous écoutons dans ta parole. Oui, Seigneur, donne-nous la foi, la persévérance, la patience. Et nous prions pour ton Église, afin qu'elle sache passer parfois d'un monde de code moral et de commandement à d'abord un monde de la grâce. Oui, la grâce, d'abord, le travail du Saint-Esprit par Jésus-Christ, d'abord, et les commandements et la morale ensuite. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour tous ceux que nous avons estimés, et nous t'en demandons pardon, trop loin de toi. Nous prions pour eux, afin qu'ils viennent à Jérusalem, comme Paul ils sachent se retourner et donc se convertir. Et nous prions pour nous-mêmes, que toujours davantage, tout notre être sache se convertir, se retourner pour prendre la direction de Jérusalem. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes. Fin de l'enregistrement. Free audio post-production by Alphonic.com.